Et bonsoir et bienvenue en direct comme tous les seconds jeudis du mois du local Aquilonette à Bordeaux au 22 rue de Touras. C'est Radio Girol et on est ensemble pour à peu près grosso modo une heure d'émission autour des cultures libres. Autour de la table on retrouve Mathis. Bonsoir Mathis.
Bonsoir.
Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ça fait plaisir de te retrouver. Et on retrouve Simage.
Salut.
Oui, on t'entend.
On t'entend très bien.
Il faut peut-être que je monte un petit peu le
son. Tu dis Tourat toi ? Moi j'aurais dit Tourat. On est dans le sud-ouest.
On est dans
le
ouais, je sais pas.
Pardon, excusez-moi.
Enfin bon, bref.
Prononciation.
Au programme de cette dernière émission de l'année 2019, enfin. Moi je ne sais pas pour vous, mais je suis pressé que cette année s'arrête et qu'on rembraye sur 2020,
ça. Ouais. Pourquoi ?
Je ne sais pas, j'ai envie. J'aime bien les comptes ronds.
Ah, d'accord.
C'est surtout que j'ai envie que l'année de mes 40 ans s'éloigne, ou peut-être pas trop en fait.
Fais attention, après on arrive à 45.
Très vite.
Puis à 50.
Alors, on va, comme d'habitude...
Et encore au-delà.
On va...
Et jusqu'au... et au-delà et...
Vers l'infini et au-delà.
Vers l'infini ou au-delà.
Fais gaffe parce que tu as des avocats qui vont débarquer.
Hein. Attention, c'est copyrighté. Hein.
C'est ça.
Non, j'ai fait trop de bourdes pour que ça copyright.
Donc, au programme, nous allons parler de l'agenda comme d'habitude. Nous allons parler de la fin de Windows 7 et de la surprise de fin d'année concoctée par Girol, qui est encore en gestation, mais vous allez voir, ça va être très vite allé. Nous allons encore parler de la proposition de loi Avia, ou comment tout le monde tape sur un texte de loi, sauf ceux qui l'ont écrit. Ceci étant dit, ça peut paraître un peu normal. Et nous allons parler Capitole du Libre, parce que nous avions un envoyé spécial au Capitole du Libre qui a réalisé une petite interview d'une demi-heure à peu près de David Revoy, l'artiste préféré de la communauté du Libre. Voilà.
Mais... Et il te manque une petite... Non, on en fait une petite news de notre ami le gamer.
Oui, le D'accord. gamer. Oui, le on gamer. Va parler de jeux vidéo. Hein. Ah, on a deux news jeux vidéo et il y en a une, c'est une grande fiesta. Et voilà.
Il est pas là, mais en train pour lui.
Voilà. Je pense qu'on va d'abord faire l'agenda, une petite pause musicale et ensuite on parlera de notre ami le gamer.
Mmh. D'accord, voilà, ça news. Me va. Si
alors,
tu veux.
Au niveau
de l'agenda, il va être super court parce que bon, c'est un peu les vacances, tout ça. Donc, tous les groupes là sont un peu à la. Pas très actifs. Donc, la bulle, j'ai rien. Pas avant janvier et j'ai pas vu sur leur site les annonces pour janvier. Donc, j'ai pas de nouvelles. On attend. On verra en janvier. Aquilnet, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Donc, a priori, le premier mardi du mois de janvier, ce sera le 7 janvier. Donc, il devrait y avoir le premier... Je grésille un peu. Ou c'est mon casque qui grésille ?
Ça doit être
chez vous,
casque.
Ça va ? D'accord, parfait. Pour une fois qu'on a un casque, déjà, c'est pas mal. Merci, Isa. donc, je disais, Aquilnet, le 7 janvier, donc il devrait y avoir à 21h les portes ouvertes de la mezzanine au 20 rue de Tourat. Où nous sommes actuellement.
Ah, parce que tu prononces le T.
Ouais, moi je prononce le T, je suis du sud-ouest, désolée. Mais c'est peut-être Toura. Donc pour ceux qui cherchent l'adresse, je la mettrai sur le site et il n'y a pas de à la fin. Ensuite, OSM, donc OpenStreetMap, le groupe bordelais, c'est toujours le deuxième lundi, donc ça sera en janvier le 13. Ça peut toujours se vérifier sur leur liste. Et comme toujours, je mets le lien sur le site. Et la Cubale. La Cubale, alors en même temps je l'annonce, mais c'est un peu, on aura le temps de le redire en janvier parce que ça sera le, il n'y en a pas en décembre en fait de Wiki Permanence, donc ça sera la prochaine le 25 janvier, toujours à Mériadec de 10h30 à midi.
C'est ça.
Voilà, il n'y a que Girol qui est super actif en décembre, puisque nous sommes là toujours les jeudis, sauf pendant les vacances scolaires, mais du coup on est encore là la semaine prochaine.
On est encore là la semaine prochaine.
Ceci voilà. dit,
et
j'en profite pour le glisser, c'est pas parce qu'il n'y a pas de
Wikipermanence,
qu'il ne se passe rien à Wikipédia et Wikimedia France, puisque c'est la campagne de dons de Wikimedia France en ce moment et pour tout le mois de décembre.
D'accord. Et c'est très important parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, même pour la culture libre.
Ah ben et oui. Wikimedia France essaye depuis 2-3 ans d'être moins dépendant du mouvement international pour laisser un peu plus d'argent aux pays en voie de développement, notamment en Afrique. Donc, avoir des dons locaux en France à l'association française, c'est aussi important pour ça. Et les dons sont évidemment défiscalisés.
D'accord.
Profitons-en.
Donc, donner à la France pour ne pas donner aux pays d'Afrique, c'est ce que tu veux dire?
Non, ce que je veux dire, c'est que Wikimedia France essaie de moins peser sur les finances du mouvement international.
Oui, oui. Excusez-moi.
Pour que ceux qui
désolé
en ont
plus
besoin.
Désolé pour la mauvaise foi. Pardon.
Bon.
Donc voilà, ça c'était pour le. Je ne vois rien de plus à dire pour l'agenda. J'aimerais dire beaucoup plus, mais non. Désolé.
Alors, on va commencer par une petite pause musicale et ensuite on vous parlera de jeux vidéo. On a deux petites news, enfin d'actualité en général et plus spécifiquement de jeux vidéo, puisqu'on a deux petites news assez sympathiques qui sont tombées et une qui a mis sur le cul pas mal de libristes gamers, je l'avoue, moi le premier. Mais bon, en attendant, on va s'écouter Citizen Nobody. L'album s'appelle Wabi Sabi et le morceau s'appelle Corporatocracy. Il est sous licence Creative Commons by NCSA ND et c'est sur Radio Girol et aussi sur Radio Station. Essence.
Y a pas là. Essence, la radio à contresens. Et vous revoilà tous, nous revoilà tous, pardon, toujours en direct du local Aquilonet. Aquilonet, fournisseur d'accès associatif à Internet et militant. Donc, je vous invite largement à rejoindre si ce n'est pas déjà fait.
On va parler jeux vidéo, enfin news et news jeux vidéo. On va commencer par une petite news plutôt sympathique. La sortie du dernier volet de la saga de la trilogie Tomb Raider sous Linux. Un an à peu près après sa sortie officielle sur toutes les consoles majeures, enfin sur console et sur PC Windows. Le jeu arrive sous Linux et c'est pas mal du tout puisqu'on voit que le porteur, Feral Interactive, a bien affiné en fait son interface entre les appels DirectX et les appels Vulkan, et le jeu tourne à peu près à 10% de mon, enfin 10% moins bien que sur une machine équivalente que sur Windows. C'est plutôt pas mal, et là où c'est vraiment pas mal aussi, c'est que du coup de plus en plus de youtubeurs spécialisés dans la tech, notamment en anglais, se mettent à tester du coup des machines sous Linux, des cartes graphiques sous Linux, et ça c'est assez intéressant, plus de visibilité.
Oui, j'ai l'impression que ça commence à se dire qu'on peut jouer sous Linux et que les pertes de qualité, parce que c'est surtout ça le gros problème en fait.
De framerate.
Oui, de performance, tu veux
dire. De performance, voilà.
Les deux en fait, ces performances, du coup, ça joue sur la qualité graphique de ton jeu aussi.
Exactement, oui, c'est vrai.
Donc, mais c'est surtout là où on le voit. Est-ce que ça lag? Est-ce que le graphisme il est aussi joli que...
Exactement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que notamment il y a quelques chaînes YouTube spécialisées dans les tests hardware qui se mettent à intégrer des tests sous Linux, et notamment j'ai vu apparaître pas mal de tests avec Shadow of the Tomb Raider où on le voyait à la fois sous Linux et à la fois sous Windows pour tester par exemple la GTX 1660 de chez Nvidia, version qui venait de sortir, enfin voilà, c'est plutôt assez intéressant. Donc une première bonne nouvelle pour les gamers, sachant que je l'ai testé, bien entendu, je pouvais pas faire autrement. Alors je l'ai acheté directement sur le site internet de Feral Interactive parce que je préfère que mes bouzoufs ils aillent alimenter le plus possible le Feral qu'enfiler 30% à Steam, même si il faut avouer que c'est toujours intéressant de donner du pognon.
C'est toujours du boulot, faut pas non plus cracher complètement dans la soupe. S'ils étaient pas là, ça avancerait pas. Je dois avouer que
si quand j'achète un jeu par exemple maintenant parce qu'il est compatible Proton directement sur Steam, les bouseaux vont aussi à Valve, donc c'est intéressant. Je préfère que la majeure partie de l'argent que je donne aille aux développeurs plutôt que pour ce jeu-là en tout cas. La deuxième du coup news, et elle est aussi extrêmement intéressante, c'est Lutris. On parle beaucoup de Lutris, rappelez-vous le l'anneau unique de jeu sous Linux. Et bien Lutris vient de recevoir 25 000 $, pardon, c'est en dollars, de dons et de la part de Epic. Et oui, ça arrive. Nous qui pensions que c'était l'ennemi juré de Linux, que le patron d'Epic ne semblait pas aimer.
Il suffit de faire
un tour sur différents forums, sur Gaming on Linux, sur les forums de Gaming on Linux ou sur les Reddit Linux Gaming, pour s'apercevoir que effectivement la communauté ne porte pas dans son cœur Epic Mega Game et son patron, parce qu'ils sont plutôt hostiles à Linux. Et là on voit que non seulement Epic a fait un don assez conséquent à la Blender Foundation, mais en plus un don à Lutris pour permettre de continuer le travail, ce que bien entendu notre ami Strikecore va faire, puisqu'il va se concentrer d'autant plus sur la stabilité et les outils qui permettent de faire tourner des jeux non natifs sous Linux de la meilleure façon qu'il soit. Voilà.
Oui. Non, désolé, tout d'un coup, je pensais à Baldur's Gate 3. J'espère toujours sa sortie sous Linux. Excusez-moi, j'ai fait une aparté toute seule.
Lutris, il faut que tu ailles voir sur Lutris. Peut-être que tu peux le faire tourner avec Lutris.
Il n'est pas sorti encore, le Baldur's Gate 3.
Ah, mais voilà.
On l'attend encore un petit peu, je crois.
On l'attend encore. Hop.
Ouais, ouais. Mais voilà. De toute façon, je vais être déçue. Hein. Je suis désolée.
De suite.
Tout de suite, oui.
Voilà au niveau des news. Est-ce que toi, tu en avais d'autres news? Vous en avez d'autres?
Non. À part Lutris, moi, j'ai rien. Mais Mathis, non. T'en as, Isa? Excusez-nous pour le silence, je vais essayer de meubler pendant que Isa explique. On donne à Isa le micro, excusez-moi.
Oui, alors je vais donner une info, mais je ne sais plus trop, ça va être un peu flou. On en avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu, je crois, que Choisir avait attaqué en justice, je crois que c'était... C'était Steam, non ?
Oui, il y a eu plusieurs histoires entre
c'est
Steam et...
Oui.
Oui.
C'est la mienne. Ah.
Voilà, j'ai la mienne.
Et Voilà, donc ils avaient gagné d'ailleurs en première instance en tout cas.
Je ne sais plus sur quoi, c'était pas sur leur... la vente d'occasion, les jeux d'occasion.
Voilà, c'est ça, c'est le fait qu'il n'était pas possible de revendre, pardon, pas possible de revendre ces jeux.
Voilà,
mais et ça, puis, ça... Bon, oui, mais là, en l'occurrence, je pense qu'ils ils avaient attaqué sur la partie de la possibilité
de vente en ligne.
Pas possible de
l'UFC que choisir, c'était s'il était déjà intéressé à la question sur le livre numérique aussi, notamment, voilà. Et sur le contenu dématérialisé en général.
Voilà, c'était juste la partie d'ISA.
Voilà, question news aussi. Je vois
mais attendez, parce que c'est un vrai sujet important quand même, moi, qui m'intéresse. Cette question-là, là, des jeux d'occasion.
Oui.
Non, bon, d'accord, excusez-moi. On passe à autre chose.
Oui.
Non, désolé. On en reparlera une autre fois, on se renseignera.
Oui, les news, il y a le chalutage de l'administration fiscale pour essayer de trouver les resquilleurs en aspirant les données.
Oui.
Voilà, qui a pris une petite claque déjà, là, si j'ai bien compris.
Bah, le Sénat, a priori, d'après l'article de Next Impact, a adopté la loi. Pour la collecte généralisée des données publiques sur les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne. Voilà, donc faites attention à ce que vous postez en public.
C'est ça.
Non, mais c'est rigolo. Moi, j'ai l'impression que ça ne sera pas forcément très, très pertinent pour les vraies personnes qui savent
faire
de la fraude fiscale.
Mais c'est un problème.
C'est peut-être qu'une impression, mais
bien sûr, ça n'a aucun sens pour eux.
C'est un problème général de la société qu'ils sont en train de nous créer. C'est-à-dire que nous, en tant que personnes qui sont au fait et qui sont plutôt bien à l'aise avec le numérique, nous avons pratiquement rien à craindre. Parce que nous savons nous prémunir de leur chalutage.
Ouais.
C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est-à-dire que c'est... Et en même temps, si on voit avec ce qu'ils veulent faire pour les retraites, alors si on dévie légèrement au côté politique, toute la société que sont en train de nous que veulent concevoir nos politiciens actuellement, c'est ça. C'est écraser les gens les plus faibles, les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre. Alors qu'effectivement, les gens qui ont les moyens de se défendre, soit parce qu'ils ont des moyens financiers colossaux, soit parce qu'ils ont les moyens techniques de se prémunir dans le cadre qui nous intéresse là, on est relativement à l'abri.
Ouais. Voilà.
Nous sommes à l'abri de la surveillance généralisée de Facebook, de Google, parce que nous savons nous en prémunir. Nous avons les moyens techniques de nous en prémunir. Et nous avons les moyens.
Et encore que, parce que j'ai fait un tour chez Reflet.info, qui bon, malheureusement a maintenant tous ces articles qui sont payants quasiment. Et ils ont fait toute une série d'articles sur les trackers de publicité chez Libération.
On en a parlé la semaine dernière, les first party trackers.
C'est des trackers qui se planquent, qui contournent la RGPD.
Mais
RGPD. Je ne sais pas, il faut avoir vraiment un très très bon niveau de
il suffit d'installer, d'utilisation. Oui, il suffit d'installer U-Matrix en mode paranoïaque. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est seuls les gens qui ont le plus gros bagage technique, qui ont une meilleure compréhension de comment marchent les choses, sont capables de se prémunir de ce genre de
moi,
loi.
Ce que je trouverais assez étonnant, alors là tu parles de la loi, mais là on parle d'une pratique commerciale déloyale.
Oui.
Parce que justement, malgré les choix des personnes, il y a un cookie qui...
Elle est d'autant plus déloyale qu'elle est en plus mensongère, puisque en fait, si Reflet... Et en fait, ce n'est pas Reflet à l'origine, c'est Aeris.
Oui, c'est Aeris.
Qui s'est emparé du problème. C'est parce qu'il a... Ils se sont vantés d'être plus blanc que blanc. Et en fait, il n'a pas fallu longtemps pour quelqu'un fourre son nez là-dedans et il trouve en fait ce qu'il a trouvé.
Et en fait, ils mettent ça sous un nom de domaine qui...
Un sous-domaine. Ils font de la délégation de domaine.
Et donc, les anti-trackers de pub qu'on met habituellement sur les navigateurs, ils considèrent qu'ils sont légitimes.
Oui, donc, sauf que du coup, la réplique est là, puisque uBlock Origin, qui est plus accessible pour une personne non technicienne, est en train de prévoir, grâce sur Firefox, puisque la riposte ne sera pas possible sur les autres navigateurs, notamment sur Chrome, puisque c'est
ils n'acceptent pas les bloqueurs de pub.
Ils
en acceptent certains, Firefox
donne accès à une API DNS qui permet qui permettra, d'après ce que j'en ai compris, à l'extension de vérifier le DNS si le nom de domaine, par exemple trucmuche.libération.fr, est un alias d'un autre nom de domaine qui ne lui appartient pas, pour vérifier si cet autre nom de domaine, si l'alias pointe vers un site qui est réputé pour faire du tracking publicitaire. Donc oui, il y a des moyens qui vont être trouvés. Mais effectivement, bon, pour l'instant,
mieux,
le seul moyen...
C'est vrai que voilà, c'est un petit jeu qui n'en finit pas, quoi.
Mais on revient, pour revenir au cœur de notre sujet...
Bah, sauf si les navigateurs... Excuse-moi, je t'ai coupé méchamment, Yorick. Mais sauf si le navigateur, par défaut, bloque ce genre de choses aussi. Tu vois, c'est aussi une logique d'ensemble.
Mais c'est très difficilement bloquable par défaut.
Je ne dis pas l'inverse. Mais quelque part, tu vois, moi, je trouve étonnant qu'on demande aux gens de faire attention. Bon, ça, ce n'est pas normal. Ça devrait être à la loi. De l'autre côté... Je trouve que l'État lui-même a des pratiques déloyales là-dessus, parce qu'il met un petit bandeau cookie, sauf que quand tu veux régler, choisir d'avoir ou pas les Google Analytics, les cookies Google Analytics, bah en vrai, tu n'as pas le choix, il t'explique comment configurer ton navigateur. Donc, il n'y a pas de vraie possibilité de couper le truc. Ou alors, il t'envoie vers le plugin à mettre, enfin, le module complémentaire à rajouter à ton navigateur de Google pour dire que tu ne veux pas de Google. Donc, des cookies de Google. Donc, c'est un peu drôle.
Mais on va revenir à notre sujet initial, parce qu'effectivement, on en a déjà longuement parlé lors de notre précédente émission. On en reparlera sûrement, je suppose, à la rentrée. Mais le fait est que, oui, toutes ces lois qui sont mises en place, notamment la loi Avia, c'est la même chose. Je pense que les gens qui ont vraiment envie de faire chier, et puis on en reparlera juste après, mais ouais, les gens qui ont vraiment envie de faire chier et qui ont les connaissances techniques suffisantes, ils passent sous les radars.
Il y a une autre question que je me pose qui est par rapport au... Oh, désolée, j'ai fait un saut. Sur le fait que les gens se posent pas tellement... Enfin, j'ai beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de personnes qui se posent la question de leurs données personnelles. Par contre, il y a un vrai vide et tout le monde... Enfin, je pense que je suis pas la seule à le dire. Il y a un vrai... Les personnes laissent tomber. C'est-à-dire Android, oui, je sais que Google m'écoute, mais j'ai pas le choix, je veux un téléphone, j'ai besoin d'un smartphone, il y a que Android sur le marché.
Mais
ou
parce
Apple,
que
c'est pas mieux.
Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est effectivement, c'est Android ou Apple. Ouais. Alors, ils veulent tous laver plus blanc que blanc, mais quand on gratte, de toute façon, il y a des scandales qui éclatent. Sur les deux sociétés. La deuxième, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mes données personnelles », mais ça leur fait tellement plaisir d'être la star d'Instagram ou la star de Facebook le temps d'un post en train de se mettre...
Tout le monde n'est pas comme ça.
Alors, quand même, précisons quand même que ce qu'on poste sur les réseaux sociaux en public n'est pas la vie privée, c'est la vie publique. C'est quand même important de distinguer, parce qu'on parle de protection de la vie privée. Effectivement, être la star d'Instagram, c'est la vie publique.
Oui.
Si on décide de le poster, c'est la vie publique. C'est un choix, comme dit Simage.
C'est vrai.
Oui, la différence, là, on parle de ce qui n'est pas un choix de la part des personnes et qu'ils subissent. Et il y a très peu. Ce que je trouve très étonnant, en fait, c'est que très peu connaissent la quadrature du net. Personne ne se renseigne auprès de l'UFC que choisir, tu vois, de société de. Comment on appelle ça, d'association de consommateurs pour dire, mais au moins essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il n'y a pas de pétition. Et c'est pareil sur le fait que tout devienne numérique. Que l'État demande à ce que tous les services publics passent en numérique, etc. Les gens ont l'impression... Alors, je dis les gens, désolée, mais il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de ne pas pouvoir agir. Il n'y a plus d'idée de canal possible d'action.
Mais après, parce que je pense que c'est à rapprocher du fait que les gens aimeraient tous manger bio ou ils aimeraient tous faire quelque chose pour la planète. Et au final, ils vont pas à la Biocoop. Ils jettent toujours les mêmes gens qui vont te dire qu'ils aimeraient faire quelque chose pour la planète, ils continuent à jeter leurs mégots par terre.
Mais ils achètent des mégots bio.
Même pas. Même pas.
Pardon.
Enfin, c'est un raccourci, mais
oui,
effectivement.
Oui. Après, je pense que il y a une certaine catégorie de personnes, une frange de la population, qui commence à être sensibilisée. Ils commencent à être sensibilisés. Voilà, ils sont au début de la démarche, donc pour eux c'est nouveau et ils savent pas où il faut aller.
Et il
n'y
a pas de
pétition
qui ont été lancées sur le sujet aussi.
Mais je sais pas.
À destination de qui tu sais.
Bah oui, mais regarde, il y a eu des. Je veux dire, les pétitions, il y a des groupes qui lancent des pétitions et ça prend dans le public. Pourquoi est-ce que les pétitions sur les services publics ne doivent pas être tous sur Internet ? doivent pas être tous. Il doit y rester du courrier. Il doit rester du papier, je veux dire, parce que tout le monde n'est pas sur Internet. Et des pétitions du type, bah oui, je veux pas que, je veux qu'on encadre Google ou autre. Alors c'est un peu bizarre parce que là, c'est quand même le fait d'encadrer Google. Autant une pétition pour dire les services publics doivent rester papier pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur, etc., ou qui ne veulent pas y aller parce que c'est un outil comme un autre. C'est pas une obligation d'avoir cet outil. Ok, ça me paraît légitime. C'est vrai que ça, tout d'un coup, je me dis, ouais, une pétition pour dire Google, j'en veux pas, bah ouais, bah t'achètes pas Google. Enfin,
oui,
tu vois,
voilà,
j'ai envie un peu de te répondre ça. Ouais.
Bah, c'est un peu, bah, c'est, comme j'étais sur reflet.info, ils disaient ça par rapport à YouTube. Ils interpellaient les gens, ils disaient, oh là là, vous voulez plus être censuré sur YouTube, sur ceci, sur cela, bah fermez vos comptes. Parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de solution. C'est des sociétés privées, ils font ce qu'ils veulent.
C'est ça.
Donc voilà, il faut juste savoir que ce n'est pas un service public. Effectivement, YouTube, Instagram et compagnie, ce ne sont pas des services publics. Donc les mecs, ils font ce qu'ils veulent.
Bref.
Oui, pardon.
Parce qu'on est en train de digresser. On a une...
ceux qui veulent dans les limites quand même de la loi. Ils ont le droit de supprimer. Par contre, ils n'ont pas le droit de laisser des contenus qui sont illégaux.
Oui, mais comme ils ne sont pas basé juridiquement intégralement dans les pays comme la France, puisqu'on est en France, c'est compliqué aussi de leur faire respecter les lois. C'est compliqué de leur faire enlever les contenus qui posent problème. Et après, même quand ils le font avec des petites mains et des gens qui font que ça toute la journée et que ça rend malade. Enfin bon, il y a des histoires pas possibles sur le sujet, quoi. Donc, c'est pas forcément évident de les forcer à contrôler. Et même quand ils le font, ils vont aussi au-delà, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la censure en disant, ben voilà, on va supprimer, on va pas sur l'Apple Store, on va enlever l'album de Philippe Catherine parce que il a mis une bite à la place du nez, donc ça se fait pas. Merci, au revoir, quoi. Donc voilà. Donc, mais encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Donc après, il y a des lois, on peut les obliger à suivre les lois, mais bon, ça prend du temps, ou alors ils vont argumenter sur autre chose, etc. etc. Et puis ils ont de quoi, ils sont très riches.
Bref, nous allons passer au sujet suivant, parce que sinon nous allons pas nous en sortir. Mais nous allons parler du coup de la loi Avia.
Sans pause musicale, du coup.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Histoire de reprendre, je vous propose La Chasse. Le morceau s'appelle The Lion and the Cucumbers.
L'album, c'est La Chatte.
Et l'album, c'est La Chatte. Et d'ailleurs, le sous-titre en fait, du morceau, c'est Vampiros Lesbos Cover.
Licence, c'est du CC by NC. Et pas du NCND.
Oui, parce que je me suis
ni
bourré
tout à l'heure. Comme
tout à l'heure. Voilà. On revient d'ici 3 minutes 50 après La Chasse sur Radio Girol et sur Radio Station Essence.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Thank you.
Radio Station Essence, c'est trop bien. Elle vous fait plein d'amour. J'écoute de la musique qui est dans sa radio.
Et nous voilà de retour et nous allons parler cette fois-ci de la loi Avia, de la fameuse loi anti-haine sur Internet.
La proposition de loi qui est arrivée au Sénat la semaine dernière à la commission des lois, je crois.
Oui.
En commission en tout cas, au Sénat, après avoir été adoptée par l'Assemblée en juillet. Et tu me disais, avant qu'on commence, que le Sénat a déjà retiré certaines dispositions. En tout cas, la commission a déjà retiré.
D'après ce que j'ai vu.
Proposé des amendements pour retirer certaines dispositions.
La disposition, donc, par exemple, de suppression sous 24 heures des contenus, parce qu'elle est effectivement, elle paraît. Ça, c'est irréalisable.
Disproportionné.
Et disproportionné. Voilà, mais toi, tu voulais nous parler plus précisément de la position de la Fondation Wikimedia, enfin de l'association Wikimedia France, et d'un article qui est paru sur le blog de cette association.
Alors, la position de Wikimedia France, elle est globalement contre la proposition, et le Wikimedia France a fait un résumé un peu sur MetaWiki, qui est le wiki de coordination des projets Wikimedia, de ce qu'implique la proposition de loi par rapport à Wikipédia et au contenu des projets Wikimedia en général. Mais effectivement, la semaine dernière, le président de Wikimedia France, Pierre-Yves Baudouin, a publié un billet de blog sur le blog de Wikimedia France, qui est sur son site wikimedia.fr, dans lequel il prend l'exemple, en fait, pour montrer l'inutilité, encore une fois, mais pour montrer encore appuyer sur l'inutilité des dispositions de la proposition de loi, il prend l'exemple du vandalisme sur Wikipédia, notamment le vandalisme qui est fait par les élèves d'établissements scolaires. On sait que ce problème est énorme sur Wikipédia. Il y a énormément de vandalisme, et une bonne partie de ce vandalisme vient justement des établissements scolaires. Et le fait que ce problème soit inconnu du grand public, entre guillemets, des gens qui consultent, parce que c'est 95%, voire 99% du temps éliminé en quelques minutes, ou voire quelques secondes, le fait que ça soit caché n'a pas fait disparaître le problème. Et donc, c'est la façon de dire que cacher un problème ne le fait pas disparaître, et cacher la haine en ligne en la retirant le plus vite possible, c'est un peu mettre... On met tout sous le lit avant que quelqu'un vienne visiter l'appartement. C'est cacher un problème au lieu de le résoudre à la racine.
Voilà, sachant qu'effectivement, ça n'empêchera pas les gens de harceler, et même surtout le plus grave, d'être harcelé. Ça va juste faire en sorte que la majeure partie de la population ne le voie pas.
Et en plus, le risque, c'est que le harcèlement se déplace dans des canaux plus privés, où justement il y aura moins d'interventions possibles autres que celles judiciaires.
Voilà, qui elle, par contre, est extrêmement longue.
C'est le problème de fond, mais bon, on peut pas. C'est compliqué de raccourcir la réponse judiciaire. Il y a quand même des garanties dans la justice. Bon, on sait que la justice est surchargée, mais effectivement, c'est parfois compliqué de raccourcir. Et le problème, c'est que le fait de porter plainte peut parfois déclencher une enquête, des interventions ensuite de la justice, mais ça ne va pas empêcher la personne de continuer à être haineux et
à agir,
voilà, continuer à agir. Et c'est des condamnations qui sont très rarement des condamnations à de la prison, par exemple. Donc, ça n'a pas non plus, la personne aura toujours accès même après sa condamnation. Et je ne pense pas que quelqu'un qui porte une haine en lui, d'avoir quelques milliers d'euros d'amende, l'empêche de continuer à porter cette même haine.
Non, elle peut, enfin, moi, à mon avis, elle peut même le pousser à être encore là. Elle peut pousser la personne à être encore plus haineuse.
Et effectivement, encore, effectivement, ça peut pousser la personne à décupler sa haine et à continuer. Et de nombreuses personnes, justement, exposent leur condamnation comme un trophée.
Oui, c'est vrai en plus. Bon, en attendant, cette loi, on peut dire qu'elle a, mis à part les gens, enfin, la députée Avia qui l'a qui a fait la proposition de loi et la majorité présidentielle, on peut dire que cette loi fait l'unanimité puisque l'Union européenne s'est aussi prononcée vivement contre cette loi.
L'unanimité contre elle, oui, enfin quasi-unanimité contre elle. Du coup, même l'Union européenne, effectivement, s'est prononcée contre. Toutes les associations de défense des libertés en ligne se sont évidemment prononcées contre. Et toutes les associations de lutte contre les contenus haineux. Je sais que l'inter-LGBT s'est prononcé contre, par exemple, et d'autres associations aussi.
Alors qu'effectivement, ce font partie des personnes qui sont justement qui doivent faire face à le plus de haine.
Qui font face à la, voilà, c'est-à-dire que les personnes qui font face à la haine disent, mais en fait, c'est juste cacher la haine sous le tapis et ça ne sert à rien, ça résout pas le problème de fond. Et on veut faire une loi inutile. Parce que justement, ça ne résout pas le problème. Sauf que cette loi inutile va en plus violer nos libertés.
Donc effectivement, on est très loin de l'objectif.
On est très loin de l'objectif et on peut même dire qu'on va à rebours de l'objectif.
Bon, merci beaucoup du coup Mathis pour ton intervention. On va s'écouter une dernière petite musique et on va parler avec Duponin de son passage éclair ou pas au Capitole du Libre qui s'est tenu le mois dernier. Et on va vous faire écouter une petite interview de David Revoix. En attendant, je vous propose d'écouter René Binamé, Vocation sur Radio Girol.
Tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris des vers, c'est que ça m'amuse. C'est que ça m'amuse. C'est que ça m'amuse et je vous chie au nez.
Girol. Et nous voilà de retour. Et du coup, on a, avant que l'on intervienne du coup avec Dupontin sur sa visite au Capitole du Libre, on a un petit truc à annoncer chez Girol, parce que on ne reste pas trop les bras croisés. On essaie de réfléchir à des trucs. Et du coup,
des fois.
Et là,
je suis
on
pas
a
sûr qu'on réfléchit. Je pense qu'on a des éclairs de luminosité.
C'est ça. C'est un peu ça. Et savez-vous que le 14 janvier, Windows 7, c'est fini. Et comme c'est encore un système qui est très utilisé, parce que effectivement, beaucoup d'utilisateurs l'aiment bien, il est plutôt stable, ça fait partie de la version 1 sur 2 de Windows. Une version sur 2, elle est ripou, à plus savoir quand en faire, et une sur 2, elle est vraiment, elle fonctionne plutôt bien. Et celle-ci, en fait, elle fonctionnait plutôt bien. Donc les gens sont contents. Sauf que, le 14,
et
c'est fini.
Et ils n'ont pas envie de passer à Windows 10.
C'est ça. Sauf que du coup, même s'ils avaient envie, il est plutôt conseillé par Microsoft, à grand renfort de marketing, de changer de machine. Parce que, vous comprenez, il faut un OS moderne sur un système, sur un ordinateur moderne. Sauf que chez Girol, on n'est pas...
C'est mieux que ça. C'est que votre machine, hélas, n'est pas capable de supporter un OS moderne.
Voilà.
Ils disent pas qu'il n'est pas capable de supporter Windows 10. Hein. Ça n'est pas capable de supporter un OS moderne. Alors moi, je dis, il y a des OS modernes, très bien.
Exactement.
Qu'elles sont capables de supporter.
Exactement. Et du coup, si jeudi prochain et tous les jeudis de janvier, vous voulez passer chez Girol pour qu'on vous installe un système d'exploitation moderne qui, en plus, et c'est pas rien, respecte votre vie privée, eh bien, on peut le faire.
Oui, on peut le faire. Et du coup, je me suis perdue toute seule. du coup, l'idée, ça serait d'essayer de faire un gros mouvement.
Exactement.
Autour de. Pour Noël, je veux pas un nouvel ordi, je veux un nouvel OS.
Exactement.
Et un qui est écolo et qui en plus respecte ma vie privée, c'est pas cool.
Et qui me permet de ne pas avoir à jeter un ordinateur qui, malgré tout, peut encore fonctionner correctement.
Bah, c'est ça.
Surtout
c'est
si j'en ai un besoin plutôt basique d'aller naviguer sur Internet, réaliser quelques documents avec une suite bureautique, regarder les photos du petit dernier ou du petit neveu ou de la petite nièce. Voilà, on peut faire en sorte que votre vieil ordinateur qui ne sera plus mis à jour et donc potentiellement exposé à des risques graves de sécurité, on puisse vous installer dessus un OS, un système d'exploitation moderne qui vous permette de faire tout ce que vous faisiez avec votre ancien ordinateur, enfin avec votre ancien système, et ce, sans changer d'ordinateur.
Et des fois, ça va même plus vite. Pardon.
Et en plus, tenez-vous bien...
Souvent, ça va plus vite.
Et tenez-vous bien, ça sera gratuit.
En plus, c'est gratuit, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'acheter et c'est génial. On est en train de se plaindre des problèmes de surconsommation aujourd'hui. Noël arrive, tout le monde dit qu'il faut bazarder Noël parce que surconsommation, blablabla. Mais non, offrez un nouvel OS à vos amis.
On va faire le Black Tuesday.
Le quoi?
Black...
Le White Tuesday.
Le White Tuesday, voilà. Le jeudi blanc. On vient à Girol pour installer un système d'exploitation sans avoir à faire de surconsommation. Voilà.
Et du coup, on cherche un truc. On se dit que sur les réseaux sociaux, tout ça, ça serait peut-être pas mal d'avoir une espèce de hashtag pour fédérer les posts autour de cette idée-là.
Exactement.
Et on n'a pas encore le bon. On a des propositions. On a hashtag pour Noël, je veux un nouvel OS. Hashtag un OS pour Noël. Hashtag, attendez, je me suis perdue, j'ai perdu les hashtags. Il y en avait des rigolos. C'était quoi le tien, hashtag soft, un nouveau soft pour mon micro?
Voilà, un nouveau soft libre pour mon micro. Le libre a été rajouté ensuite par Mathis et c'est une excellente idée.
Il y a eu des propositions sur Mastodon, hashtag ouvrez les fenêtres, hashtag le gnou va rentrer par la fenêtre, hashtag la poubelle est trop loin. J'ai bien aimé celui-là. Mais bon, je suis pas sûre que ça peut être très très parlant. Dup dup, t'as pas l'air très... C'est super.
J'ai encore mieux que le White Tuesday, c'est le Green Tuesday.
Oui. Ah oui, Green Tuesday, ça peut être pas mal.
Exactement.
Ah ouais, ça serait... Ah mais attends, hashtag Green Tuesday. Pourquoi Tuesday? C'est quoi le Tuesday?
Le jeudi de Girol.
Parce que le jeudi, c'est à Girol et on peut installer l'OS un jeudi à Girol.
Mais il faut pas... Hashtag Green Tuesday. Tuesday, c'est mardi. Alors c'est quoi Tuesday?
C'est mercredi, Wednesday.
Bah oui. Eh non, mais
donc
vous êtes tous mauvais en anglais.
Green Thursday.
C'est Friday.
Thursday.
Ouais. Ouais. Alors en plus, s'il faut le prononcer, pas tant.
Bon, en attendant,
je vous laisse. Ouais.
On va
discuter de choses sérieuses.
Tu vas passer le micro du coup à Dupontin. Bonsoir, Dupontin.
C'est moi-même.
Alors, tu as été notre reporter spécial au Capitole du Libre à Toulouse.
C'est bien ça, au Capitole du Libre. Je ne sais plus quel jour exactement c'était. Bien sûr. J'ai oublié de vérifier ça avant. Donc, c'était un événement à propos du libre, avec une entrée libre et gratuite, bien sûr. à Toulouse.
Et du coup, tu nous as ramené une petite interview du célèbre David Revoy.
Le célèbre David Revoy qui fait trembler la toile, comme disent les journaux sensations de nos jours. Mais oui, j'ai...
Quels sont ses réseaux ?
Quels sont ses réseaux ? Ben, un peu tout ce qui est décentralisé. Il est présent sur Peertube, Mastodon, ainsi que IRC. Il a un channel à propos de sa bande dessinée sur lequel il est très présent et actif.
Voilà, et du coup, une petite interview d'une demi-heure. Alors au départ, on s'était dit qu'on allait monter tout ça tous les deux en amoureux tout à l'heure avant de commencer notre émission de radio.
Doucement, doucement.
Mais au final, on s'est rendu compte que ben, c'était plutôt pas mal. L'interview était bien menée. On a juste enlevé 2-3 « e » qui traînaient. Des choses où effectivement, il y a eu quelques petites hésitations. Donc elle est quasiment pas montée. Voilà, la qualité est pas tip-top, mais on a fait avec les moyens du bord. Et ça, c'est de ma faute, hein, parce que je n'ai pas donné le bon matériel. Mais c'est pas grave, on a une interview extrêmement intéressante de David Revoy au Capitole du Libre. Du coup, notre émission s'arrêtera juste après cette interview. Nous, on se retrouvera maintenant au mois de janvier, le jeudi 9 janvier, nous nous retrouverons du coup ici pour la première émission de l'année 2020.
Juste pour compléter à propos du Capitole, le Capitole avait lieu durant tout un week-end, le samedi et le dimanche. Et cette émission, cet enregistrement était fait le samedi, midi.
À l'année prochaine ?
À l'année prochaine.
Des bisous.
Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle David Revoy, je suis un dessinateur de BD qui utilise des logiciels libres et la BD que je dessine actuellement s'appelle Pepper et Carotte.
Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial ta bande dessinée
Alors, en premier aspect, elle n'a un peu rien de spécial, c'est une petite BD humoristique sur Pepper, une petite sorcière et son chat, Carotte. Ils font des aventures dans un monde fantasy parodique, puisque c'est de l'humour. Et voilà, là c'est la couche de surface, mais la particularité, c'est que derrière, on n'utilise que du logiciel libre. Je dis « on » parce qu'il y a aussi des collaborateurs qui sont sur le projet, même si je suis le seul dessinateur et que je décide un peu tout au niveau du scénario. Mais c'est des collaborateurs qui vont aider à la traduction. C'est traduit en 40 langues. Donc c'est aussi un projet qui a des traducteurs, pas mal de langues traduites, un peu comme Wikipédia. Hein. Comme la bande dessinée, elle est aussi en libre de droit par une licence, ça permet aux personnes de prendre les pages et de les traduire, et aussi de les ramener au projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Et aussi, ça permet à des projets de se faire, comme un jeu de société ou la version en France qui est assez connue, imprimée par Glénat.
Donc tu dis que ta bande dessinée est libre de droit, mais qu'est-ce que tu as comme licence dessus et pourquoi tu as choisi celle-là ?
Alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Derrière les licences libres de droit, il y en a tout un paquet. Et celle que je vais utiliser sur Pepper et Carotte, ça s'appelle la Creative Commons Attribution. C'est-à-dire que on peut l'utiliser de façon commerciale, on peut faire des dérivations avec, on peut la repartager, on peut aussi la publier sur son réseau social ou quelque chose, mais... je ne demande qu'une seule chose, c'est qu'elle soit correctement attribuée. C'est-à-dire, le plus évident, c'est les dessins à mon nom. Donc, que mon nom suive, c'est fait par un tel. C'est qu'on ne peut pas se la réapproprier, dire finalement, c'est moi qui l'ai dessiné, ce que la personne a fait. Donc, c'est une paternité que je demande. Et si les personnes qui ont travaillé à la corriger, eh bien, elles sont citées aussi dans la bande dessinée. Donc, ça veut dire de garder les crédits, en gros. Hein. C'est ce qu'on voit à la fin des films. Voilà, c'est de tout ça soit préservé, que quand quelqu'un fasse un travail de dérivation, c'est-à-dire le reprend et modifie, eh bien, il peut ajouter son nom. Et comme ça, on a un peu une sorte de pyramide de paternité qui se fait et qui permet toujours de retracer qui sont les auteurs en amont, en fait, du projet.
Du coup, ta bande dessinée, tu la réalises avec des outils spéciaux ou c'est comme la plupart des artistes avec des outils mainstream ?
Alors, ce sont bien sûr des outils spéciaux puisque ce sont des outils libres et que le libre n'est pas encore mainstream, même si cette année avec Blender qui marque en conférence, on a gagné et qui deviennent le standard de l'industrie, eh bien, on commence à voir que ce n'est plus si loin. Il y a des projets open source et libres qui commencent à devenir dans certaines industries des standards. Donc celui que j'utilise, c'est Krita, qui n'est pas encore le standard, qui est encore une niche par rapport à ce qui est utilisé, mais qui a beaucoup de traction. On peut voir d'ailleurs sur YouTube, par exemple, beaucoup de vidéos, de tutoriels. Il y a une communauté très active et il y a même ce mois-ci un nouveau forum qui vient de se faire. Donc.
D'accord, j'ai pu voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tu es sur Mastodon, si je ne dis pas de bêtises, sur l'instance Framapiaf de Framasoft. Tu es même des testeurs avancés de Créteil, il me semble.
Oui, c'est très exact, hein. Je suis sur l'instance Framapiaf de Framasoft, l'association qui promeut le logiciel libre en France. Et donc c'est mon réseau social principal, même si je vais avoir aussi, pour des raisons de commodité avec plein d'utilisateurs, la page Facebook, le compte Twitter. Mais ces réseaux-là vont plutôt être des duplicatas de ce qui se passe réellement sur mon Framapiaf Mastodon. Donc ça reste pour moi toujours de cultiver des solutions d'indépendance totale en premier. Parce que sur Mastodon, on peut prendre toutes ces données avec soi et puis changer d'instance. C'est-à-dire dire, bon, par exemple, si je n'étais pas d'accord avec la modération de Framasoft, je pourrais dire, je prends toutes mes données et je vais sur l'instance, par exemple, de la Quadrature du Net ou de quelqu'un d'autre. Cette indépendance, c'est ce que je chéris le plus au sein du libre. Et après, oui, je suis un contributeur de Krita, mais aussi de plein de petits autres projets. Toutes les petites contrariétés sur mon bureau Linux, eh bien, je suis tendance à faire des petites pull request ou merge request pour utiliser du langage technique, c'est-à-dire des petits apports au code. Et bien souvent, ce sont pour des choses qui sont à ma portée. Donc, comme je suis un graphiste, des icônes, des choses pour égayer la documentation, des logos et compagnie.
Oui, la façon dont tu utilises les outils, tes outils pour dessiner ainsi que l'œuvre que tu réalises, est-ce qu'on ne peut pas rapprocher ça un peu de l'open hardware où on réalise quelque chose d'entièrement libre et on peut utiliser les outils sous format ouvert pour pouvoir contribuer, modifier et analyser comment c'est fait?
Alors, c'est toujours très difficile de faire des comparaisons parce que je sais qu'il y a des spécificités très, très spécifiques dues au côté matériel et au côté des coûts, de la réalisation industrielle, des machines en amont qui utilisent les technologies. Mais sinon, oui, sur la grande idée globale, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en gros, on donne les plans, le code, pour moi, ça va être mes pages de Paper et Carotte, ce sont des couches avec les personnages, avec les fonds. Et on va donner tout ça pour pouvoir que la personne qui veut reprendre le travail ait toutes les clés en main pour faire une dérivation, c'est-à-dire une modification qui soit la plus complète possible. On ne donne pas simplement un fichier JPEG en basse résolution sur le net comme beaucoup de webcomics. J'essaye de fournir vraiment le fichier haute résolution prêt à imprimer pour avoir toutes les clés.
Donc tu donnes à la fois les sources, la personne peut venir faire une modification dans Krita si elle le souhaite, et le fichier qui est envoyé à l'imprimerie, parce que tu aussi imprimes, enfin pas toi directement, mais tu imprimes ta bande dessinée, la personne peut récupérer ce fichier-là et l'imprimer elle-même si elle le souhaite.
Ouais, c'est exact. C'est quelque chose que je mets en place et que j'ai renforcé encore le mois dernier. Paper et Carotte a 5 ans maintenant. Et le projet a eu pas mal de réformes au cours du temps, c'est-à-dire de nouveaux standards pour justement faciliter la collaboration avec d'autres personnes extérieures. Et d'être compatible avec l'imprimerie, ça a été une des grandes réformes du début, d'avoir un formatage des pages correct, d'avoir aussi des couleurs qui soient compatibles, d'avoir des bulles qui soient facilement traduisibles et imprimables. Tout ça a contribué à faire que, comme je chéris cette indépendance, eh bien, dernièrement, je me lance moi-même aussi dans l'édition, même si Paper et Carotte est déjà édité dans plusieurs pays par des éditeurs qui font cette dérivation-là. Ben, je me suis dit pourquoi pas moi? Le problème était bien sûr de trouver, d'avoir un statut fiscal pour le faire, de pouvoir récolter, faire une comptabilité avec des ventes et de la production. Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'artiste, on n'a pas d'office. Il faut faire carrément un autre système de comptabilité. Ce sont des choses que j'ai travaillées cet été et c'est pour ça que, voilà, en cet automne, j'ai commencé avec la boutique de Paper et Carottes et maintenant, c'est la version imprimée. Donc oui, je me retrouve marchand, mais un peu malgré moi. Je ne dis pas ça pour faire la publicité, mais c'est vraiment un effort d'indépendance par rapport à ces dérivations, parce qu'une dérivation qui republie, eh bien, on peut vite fait avoir un lien de dépendance, parce que ben, oui, le format livre est très attrayant. Même là au Capitole du livre, je suis en train d'en dédicacer, j'aime beaucoup. Voilà, le livre a encore de très beaux jours.
Donc tu parlais justement de ta boutique, mais Paper and Carrot, ça te fait vivre. C'est, je vais pas dire son modèle économique, c'est un peu un gros mot, Mais c'est quoi pour toi et dans ta vie?
Alors, préparer carottes, au début, ça a été un projet qui s'est fait de façon spontanée sur le net. Je faisais un organigramme un peu sur ma vie après un petit burn-out, comme les personnes qui essayent de faire le point sur leur vie. Et j'avais travaillé donc dans le cinéma d'animation, j'avais travaillé dans le jeu de société, l'illustration. Et j'étais pas très content avec toutes ces industries, avec la façon dont elles s'organisaient, avec la façon dont on avait un directeur artistique ou des choses. Il y avait toujours plein de liens de dépendance. Et dans mon organigramme, j'avais simplement noté que je voulais faire de la bande dessinée. Mais c'était dedans aussi, il n'y avait pas marqué forcément d'en vivre, d'être salarié de ça. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai continué mes tâches freelance et j'ai posté en ligne la BD que j'aurais voulu faire, tout simplement. Et c'est Pepper et Carotte est né comme ça, les premiers épisodes. Et très vite, ça m'a demandé beaucoup de temps. Et la communauté m'a dit, mais il y a des moyens pour te soutenir, pour que tu puisses faire moins de freelance, moins de tes couvertures de livres et compagnie, et plus de Pepper et Carotte. Et au début, bah, je me suis dit, allez, ça va faire toujours un complément de salaire. Donc ça a été très progressif. Hein, il y a eu une plateforme qui est apparue il y a ça 5 ans, qui a bien sûr envahi tout le net après, qui est Patreon, qu'on connaît par les youtubeurs. Il y a Tipeee en France qui a pris le même rail, hein, c'est le même type d'exemple, mais plus francisé avec l'euro. Et donc, ben, je me suis inscrit sur ce genre de plateforme-là. Et j'ai eu la chance que ça soit assez viral de suite et qu'il y ait pas mal de patrons qui rejoignent, au point où mon activité freelance est devenue minoritaire au niveau du temps, comparée à l'activité Pepper et Carotte qui est devenue majoritaire. J'ai tourné quelques années comme ça. Et puis, j'ai essayé de lâcher totalement le freelance avec Pepper et Carotte. J'ai trouvé que ça ne me convenait pas. J'aimais bien toujours garder une activité. Et puis aussi, il y a eu des tâches qui sont apparues, c'est-à-dire des propositions de travail, comme dernièrement avec Framasoft, par exemple, sur les carnets de Contributopia, ou avec la Blender Foundation pour le film Spring. On fait des propositions de travailler sur des projets libres, en licence libre. Et donc, ce sont des choses que je ne peux pas refuser. Donc, des fois, je mets Pepper et Carotte sur pause. Je travaille dessus entre deux épisodes. Et puis, je reprends après un épisode. Ça permet de m'aérer et de garder, je pense, hein, c'est une manière de garder du recul aussi sur Pepper et Carotte.
Les épisodes de Pepper and Carotte sortent tous les combien de temps à peu près? C'est régulier ou c'est un peu aléatoire en fonction des inspirations?
C'est un des principaux défauts du projet. Les épisodes actuellement prennent environ 2 mois à sortir, ce qui est extrêmement long pour un webcomic. Il faut savoir que pour un artiste webcomic sur le net, on conseille de poster une petite histoire par jour, carrément, pour les petits comic strips américains. Bon, Pepper et Carotte n'est pas au format comic strip, on est sur un format où il y a carrément des chapitres de 7 à 8 pages qui forment des petites histoires avec fin et début complet. Donc, le format aide aussi un petit peu à supporter cette attente. En plus, c'est en couleur, les pages sont toutes peintes, ce ne sont pas rien que des dessins colorisés, il y a un travail de fond qui est un peu plus conséquent. Mais oui, il y a des fois, il va y avoir 3 mois entre deux épisodes quand j'accepte un travail freelance. Et il y a des fois, je vais pouvoir avoir des épisodes qui sont un peu plus spontanés, qui vont faire peut-être que 3 ou 4 pages, parce que l'histoire le motive pour être efficace comme ça. Et là, ça va peut-être en un mois de temps sortir. Mais la tendance est aux longs épisodes, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de personnages, il y a de plus en plus d'intrigues. Et voilà, j'imagine que 2 mois, ça sera le rythme de croisière pour la suite.
Du coup, tu as des grands plans de conquête mondiale de personnes avec les personnages au niveau de l'histoire, ou tu comptes rester sur des histoires simples ou justement partir sur un grand fil rouge tout au long de la bande dessinée?
Alors, il y a déjà un fil rouge en fond sur la façon dont Pepper évolue. On a un personnage qui, au début, puisque c'est une comédie avec de l'humour, je partais sur des grands archétypes, qu'on les reconnaisse assez rapidement, que ça puisse faire des histoires assez courtes et assez efficaces. Et puis, au fur et à mesure des histoires, les personnages ont fait des erreurs, ont grandi, se sont améliorés et j'ai trouvé détestable d'avoir des personnages qui revenaient à leur archétype qui n'apprenaient pas. Donc forcément, j'ai des personnages qui ont évolué et je commence à avoir donc un fil rouge, une courbe, un arc global. Et je suis obligé dans l'histoire aussi, j'ai une audience qui a des attentes, qui veut maintenant voir plus Pepper une aventure, quelque chose qui se passe en fond. Il veut plus simplement avoir des extraits de vie de Pepper comme ça, mais plus une aventure. Donc oui, là, par exemple, pour le tome 4, sans trop de spoilers, je suis en train de mettre un antagoniste dans Pepper et Carotte, ce qui est une nouvelle. Voilà.
Un grand antagoniste qu'on va revoir plusieurs fois.
Oui, c'est-à-dire un personnage qui va s'opposer carrément au héros. Hein, c'est la définition de l'antagoniste. Hein, on pourrait dire avec des mots plus simples, grand méchant. Là, ça ferait une grande méchante, mais qui va aider de façon un peu archétypée à faire avancer l'aventure de Pepper et Carotte. Hein. De toute façon, il n'y avait pas trop de choix. C'était soit de partir sur une grande quête d'objets, un objet magique ou quelque chose. Ça, voilà, c'était pas trop mon truc avec l'anneau du Seigneur des Anneaux, les Dragon Ball et les choses. Voilà, c'était trop un terrain connu pour moi. Et puis l'antagoniste, alors là, la liste elle est super longue, pareil, il y en a dans tous les grands, mais ça fait partie du genre. Et je crois que du genre comic strip et humour, le genre plus fantasy humoristique est en train d'arriver. Parce que c'est vrai que l'humour n'est pas vraiment un genre, c'est une façon de raconter. Ça a toujours été la fantaisie, mais c'était plutôt la façon, le format d'épisode en fait qui est en train de changer. Avant, on avait vraiment un format qui était très dirigé à avoir une introduction, un petit corps et une chute. Et de plus en plus, c'est bien probable que je vais garder ça, mais plus dans un esprit à continuer avec un fil rouge un peu plus important derrière quand même.
Du coup, Pepper et Carotte resterait sur la même... Du coup, Pepper and Carotte resterait toujours une bande dessinée tout public, très joyeuse, où on pourrait imaginer avec des éléments plus dramatiques ou un passé sombre de certains personnages qui apparaîtraient.
Eh bien, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment de ce qui est en train d'apparaître dernièrement. C'est-à-dire que je vois aussi que mon trait change, ma patte change. Pardon, excusez-moi. Mon trait change, ma patte change. Et c'est sûr que ça va influencer aussi l'histoire, parce que c'est sûr qu'avec un dessin un peu plus sec, on ne raconte pas les mêmes choses qu'avec un dessin un peu plus rond. Voilà, on n'aime pas non plus raconter, enfin moi je n'aime pas raconter les mêmes choses. Et l'audience aussi grandit, Pepper et Carotte, et par rapport à, par exemple, Glénat font un effort marketing pour le tourner plus jeunesse, alors que pour moi, dès la base, c'était pour les 7-77 ans. Et je pense, oui, me tourner vers des histoires un peu plus adultes, même pourquoi pas à un moment donné peut-être faire un saut dans le temps et faire un 3 ans après et commencer avec une Pepper adulte. Je ne m'interdis pas ce genre de choses. La seule chose que je m'interdirais, c'est de tourner dans le gore ou de montrer du sang ou de montrer des petites culottes et des poitrines ou des choses comme ça. Ça c'est des choses qui ne seront pas dans le projet. Je garderai le côté tout public. C'est vraiment, ça c'est un des piliers fondateurs du projet, qu'on puisse sans aucun problème conseiller la bande dessinée à n'importe qui de la famille. Voilà, c'est un peu l'esprit. Ça, c'est la seule contrainte que je me donne. Après, ça n'empêche pas de faire un combat. Ça n'empêche pas de faire même un personnage qui se fait enfermer dans une prison dans des conditions très lugubres. Tant qu'il n'y a pas une sorte de montrer trop des choses qui choquent, ou voilà, ça c'est des choses que je m'interdirais.
Plutôt faire un sous-entendu ou une double lecture.
Oui, là, s'il y a de la violence, entre guillemets, qui apparaîtrait dans la bande dessinée, ce serait toujours de façon suggérée. Ce serait jamais en montrant un pas coupé ou en montrant des choses. Quand je dis dans la bande dessinée, dans les gros piliers, pas de violence, pas de sexe, voilà, pour le résumer, ça veut dire que je ne montrerai jamais de partie, que je ne montrerai pas de ça. Mais s'il y a un personnage qui passe, qu'on sait qu'il est nu, mais qu'il y a des herbes qui cachent la case, et que c'est pour l'histoire que ça motive, et qu'on sache que la personne doit passer nue à ce moment-là, voilà, on l'imaginera, ça sera sous-entendu, mais je le ferai quand même.
Du coup, pour revenir un peu plus sur le côté plus méta de Pepper and Carrot, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres bandes dessinées libres comme ça, à ce point, que les Pepper and Carrot?
Alors oui, il y a déjà eu, parce que quand j'ai sorti Pepper et Carotte, j'ai eu un peu la prétention de marquer sur le sous-titre directement presque la première bande dessinée libre ou la BD libre, Et je me suis fait directement rappeler à l'ordre par des personnes qui avaient fait beaucoup d'essais avant. Il faut savoir que le net est finalement assez vieux et que les explorateurs, ceux qui ont exploré des voies, ils sont assez nombreux. Dans la taille de Pepper et Carotte, il n'y a jamais eu. Dans le style de finition et dans l'aboutissement graphique, même, il n'y a pas eu. Mais bien sûr, il y avait eu des personnes qui ont fait des bandes dessinées avant et qui l'ont mis dans des licences libristes. Et il y en a un paquet, c'est-à-dire avant. Mais ils n'ont pas eu l'attraction sur le même projet, il n'y a pas eu le demande de financement, il n'y a pas eu toute cette mayonnaise qui a fait que ça sorte. Quelque chose en est sorti comme un ensemble cohérent qui a duré plus de 5 ans comme ça. Après, un des plus grands et des plus connus, c'est XKCD, qui utilise la licence Creative Commons attribution non commerciale. C'est-à-dire que là, il y a quand même une restriction qui normalement n'est pas compatible avec les règles du libre, le non commercial. Mais je la considère comme une bande dessinée libre parce que ben, quand même, ça autorise la dérivation de couper une case, de le repartager sur le net, sur un blog, de ça. Donc, il y a quand même beaucoup de liberté dessus et surtout, il y a un auteur qui prend la décision de communiquer ce qu'on veut faire. Ce n'est pas le copyright où tout est interdit et puis il faut demander l'autorisation pour tout. Là, il y a quelque chose. Donc ça, c'est une très, très grande bande dessinée, bien plus connue que Pepper et Carotte. Et un exemple qui utilise une licence qui, à mon sens, rentre dans la famille du libre. Surtout pour les réseaux, Là, c'est une petite différenciation que je voudrais faire avec les logiciels libres. C'est-à-dire que quand c'est de la culture libre, je pense qu'il y a aussi d'autres subtilités qui sont aussi à prendre en compte. Je suis pas pour la licence non commerciale, mais je la comprends. Je comprends les auteurs qui l'utilisent. Et je suis content que la Creative Commons ait mis cette règle-là parce qu'elle permet un certain contrôle tout en laissant beaucoup de liberté.
Plus tôt, tu parlais que tu avais travaillé avec Framasoft pour la Contributopédia, si je l'ai bien dit. Est-ce que, du coup, tu as l'habitude de travailler avec ce genre d'association ou entité du libre telle que Framasoft?
Alors, je n'ai que Framasoft en exemple, donc, et la Blender Foundation. Après, j'essaye de fouiller la vite fait dans ma mémoire. Non, c'est. Je vais avoir des petites associations où j'ai fait un petit logo par-ci, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est la façon de qu'elles me laissent, ces associations-là, redistribuer le travail en libre derrière. C'est-à-dire que les dessins que je fais, je vais avoir plus de facilité à les poster sur mon propre portfolio, sur mon propre site. Je vais pouvoir montrer les dessins, je vais pouvoir montrer même en haute résolution, partager des fonds d'écran, voire faire des citations dans ma bande dessinée Pepper et Carotte, puisque la licence sera complètement compatible. Mais alors que quand je fais un travail avec des entreprises de jeux vidéo ou de films, eh bien souvent, je ne peux pas avoir accès à des échantillons ou bien à pouvoir montrer même les dessins que j'ai faits, puisque bien sûr, la compagnie qui m'a payé pour les faire va les utiliser dans un livre sur le making-of du film ou du jeu vidéo, et ne veut pas que le dessin se retrouve publiquement visible. Ça doit être un bonus qui doit être soit dans le making-of DVD, soit dans le Blu-ray, ou soit dans je ne sais quoi. Donc c'est très difficile. Bien souvent, on se retrouve avec essayer de montrer une partie du trailer sur YouTube pour dire « Ah, c'est moi qui ai designé ça dans le fond » ou quelque chose. Alors que cette façon, avec le libre, c'est super permissif. Enfin, c'est un bonus pour l'artiste qui le fait. Ouais.
J'ai vu, toujours sur Mastodon, parce que tu communiques souvent dessus, tu as fait des petits personnages représentatifs de Peertube. C'était une initiative personnelle ou une demande ou...
Ah oui, alors la mascotte de Peertube, c'est une initiative complètement personnelle. J'ai été très enthousiasmé par le projet Peertube. Quand il y a eu les premiers crowdfunding, j'ai été le premier à rejoindre. Et j'ai trouvé l'univers un peu austère au début, avec cette bande noire, le logo. Enfin, voilà, je me suis dit, il y a un côté, il faudrait que ça soit sympa, qu'il y ait quelque chose. Et puis je me suis dit, ce serait bien une petite mascotte. Voilà, quand la page crache ou quand il y a là dans la documentation une invite à faire quelque chose, qu'il y ait un petit personnage qui soit là. C'est pas le logo, c'est un petit personnage sympa. Et je vais commencer donc comme ça sur Mastodon à dire hey, ça serait pas mal ce petit dessin là. Et la communauté a été très très vivace à répondre, il y a eu beaucoup de retours. Et ça m'a pris du temps comme ça de reproposer un autre personnage et puis on est arrivé là, l'automne, a un final qui s'appelle Sepia, qui est un petit calamar ou une petite sèche. C'est une petite sèche, que je ne dise pas de bêtises. Il y a une différence. Et voilà, c'est une petite sèche avec une grande tête triangulaire qui est toute mignonne, toute sympa et qu'on va retrouver comme le personnage. Ça, c'est un travail totalement bénévole. C'est ce que j'ai voulu faire sur mon temps libre. Mais voilà, ce qui m'a été rendu au centuple, parce que dès qu'on est arrivé à ce final-là, que je n'avais pas montré comme un final, que j'ai montré comme une nouvelle proposition, tout de suite, il a rejoint le code, je l'ai vu apparaître dans la documentation, la communauté en a fait des émoticônes, je le vois partout, je suis super heureux, et puis voilà, maintenant, c'est un peu attribué, je crois qu'elle a été complètement adoptée par la communauté, je suis bien content.
C'est un peu comme le mastodon, enfin le mammouth de Mastodon qu'on trouve un peu partout.
Oui, ça, voilà, le réseau décentralisé Mastodon qui a un petit mammouth. J'ai la honte parce que je ne connais pas le nom du designer qui l'a fait à la base. Mais oui, il faudrait peut-être le retrouver, peut-être une citation après. Mais voilà, qui rend ce réseau-là plus sympa parce que tout de suite, ça permet de parler de Twitter, qui est le petit oiseau, de Mastodon, qui va être ce pachyderme. Et puis, on va pouvoir avoir des blagues, on va pouvoir avoir...
Le mammouth qui écrase l'oiseau.
Sans aller dans les nuances, mais voilà, des personnes qui repostent des images d'éléphants laineux, comme ça, sur le net, et puis qui font des petits gags en mettant un petit oiseau au-dessus, qui tout de suite, on peut en parler. Il y a comme si... le logiciel qui n'avait pas de visage, tout d'un coup, a un visage, peut avoir des expressions. Et voilà, ça permet aussi de pouvoir faire des petits produits pour les fans, t-shirts, donner une image, une petite face sympa au projet.
Super. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin totalement libre que tu pourrais donner à propos de Pépin en carotte ou de façon générale, un mot à passer?
Alors oui, je pense toujours s'il y a des auditeurs qui ont fait une donation à Pepper et Carotte ou qui ont fait une contribution hein, ou qui ont simplement qui ont le livre, ou qui connaissent, qui en ont parlé autour d'eux, qui ont repartagé un moment, qui ont aidé Pepper et Carotte quelquefois, voilà, de leur dire un grand merci. Et c'est sincère, hein, c'est pas le côté marketing pour la fin. Hein, je dis ça, c'est vraiment c'est toute une aventure et on ne pense pas assez à quel point c'est toutes ces petites choses-là additionnées qui sont mais aussi fondamentales que l'énergie que je mets dedans et toutes les nuits blanches que j'ai mis dedans. Voilà, c'est aussi tout ça et c'est aussi tout ça qui fera que ça aura une fin à un moment donné, s'il y a du dégoût, si les gens passent à autre chose, s'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Voilà. Donc, je suis très conscient que je leur dois, mais vraiment tout simplement. Donc, merci beaucoup.
Mais si jamais tu pars du projet, comme il est libre, il peut toujours être repris.
Complètement. Hein, c'est une des choses que les personnes ne comprennent pas beaucoup de la Creative Commons, c'est qu'elle est irrévocable. C'est qu'à partir du moment qu'on a mis un travail et qu'on a écrit que c'était en Creative Commons, on ne peut pas dire eh ben maintenant tout va être copyright et puis voilà. Moi je pourrais le faire, dire voilà maintenant tout est copyright, mais ça n'empêcherait pas que tout ce qui a été mis à présent en attribution soit en attribution. Ce serait simplement la dérivation que je ferais, donc la modification que je ferais qui serait copyright. Donc je pourrais, si j'étais salaud, continuer Pepper et Carotte, par exemple, en propriétaire. Dire maintenant, les prochains épisodes sont propriétaires. C'est une éventualité de Pepper et Carotte. Il y a une licence Creative Commons qui l'empêche, ça, qui est la CC BY SA, Share Alike. C'est un mot anglais pour dire distribuer à l'identique et qui permet d'enforcer le côté libre, c'est-à-dire que toutes les dérivations, toutes les modifications doivent être libres à leur tour et redistribuées sous CC BY SA. J'ai eu un problème avec cette licence-là au début, pour ne pas l'avoir adoptée, parce que je voulais que Pepper et Carotte se fassent imprimer dans l'industrie du livre. Et je sais que pour eux, d'avoir un livre et d'avoir tous les fichiers, de les remettre à l'identique, c'est une contrainte qui, je ne pense pas qu'ils auraient flirté avec Pepper et Carotte. Donc pour être compatible avec l'industrie, je me suis mis encore sur une licence un peu plus permissive. Et il n'est pas dit que dans le futur, les prochains épisodes, à partir d'un moment donné, je les passe en SA, quand je pense que Pepper et Carotte aura une position de force un peu plus grande. Voilà. Mais ça ne rendra pas tous les épisodes jusqu'à présent en attribution. Ça ne les rendra pas caducs, ils seront toujours en attribution parce que c'est irrévocable.
Voilà. Merci beaucoup à ta contribution pour la Radio Girol.
Merci beaucoup.
T'écoutes, Radio Giro. T'écoutes,